Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire se passe en Vendée. Un petit agriculteur du bocage élève quelques dizaines de milliers de poulets et possède 7 hectares de blé. Je l'ai trouvé sur le site d'un journal du dimanche. Un matin, il se réveille, dit-il, avec un grain de folie en tête, l'envie de tout recommencer. De fait, l'homme ne trouve plus guère de goût à son travail et se dit déprimé. Il a l'impression d'avoir fait le tour de la question. Pourtant, il n'a même pas son bac. Ses parents, comme lui, étaient agriculteurs, il a repris la ferme. Il se met alors en tête de reprendre des études. Il commence par s'inscrire à des cours par correspondance pour se remettre à niveau. Puis, se sentant un peu isolé, il se met à suivre des cours du soir à 50 km de chez lui, à La Roche-sur-Yon. Il est le seul agriculteur, mais il partage avec tous les autres étudiants le désir de changer de vie. Au bout de 2 ans, le voici sur les bancs de la fac de droit, seul quadra actif, perdu au milieu de gamins de 20 ans, qu'il accepte plus facilement que ses voisins paysans ne le soutiennent dans son désir de reconversion. Il jongle alors entre ses partiels, ses polycopiers, ses poulets et ses semis de blé. 6 ans plus tard, l'aviculteur est titulaire d'un master en droit. Il entend devenir avocat et vendre au plus vite son exploitation. Dans l'Aveyron, il y a aussi l'histoire de Raymond Giroux, un paysan de Noyac qui est devenu, lui, inspecteur des impôts. Dans la région de Lille, au sud, à Mérigny, un agriculteur a transformé ses terres en terrain de golf. Et dans Les Pieds sur Terre, jusqu'à 14h, vous pouvez entendre 2 autres histoires de reconversion vers la terre ou hors sol par Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Sur la dernière année de travail, quand j'étais à la ferme, j'avoue franchement que je ne suivais plus le troupeau comme je faisais, quoi. C'était pas ça, quoi. C'était pas ça. Dès que je trouvais une excuse pour aller faire autre chose, je me barrais. Je rentrais chez moi, je faisais mon jardin. J'étais un excellent jardinier la dernière année de la ferme. Tout était aligné, tout était arrosé comme il fallait. Parce que dès que j'avais 3 heures de libre, je me barrais faire mon jardin chez moi. Un éleveur qui fait son jardin au lieu de s'occuper de ses vaches, c'est pas bon. C'est là que ça bascule. C'est difficile pour les parents. Mon père a fait une dépression. Il me rappelait sans arrêt, tu te rends compte avec tout ce que tu as fait, tu veux t'en aller chauffeur routier ou je sais pas quoi. Même les agriculteurs que je côtoyais, avec qui je travaillais, ils comprenaient pas. C'était pas normal que Jean-Claude Faucon quitte la ferme de production laitière avec des vaches, 80 vaches, on va dire, à presque 10 000 litres de moyenne en lait. C'était déjà la belle ferme. Et autour, ils comprenaient pas. Mais c'était pas normal que je parte, c'est pas normal. C'est lourd, hein, la décision se prend pas du jour au lendemain, c'est notre entreprise qu'on quitte.
Ouais. T'as été voir la maison avec Frédéric ou pas ?
Je m'appelle Jean-Claude Faucon, j'ai 53 ans. Je suis né et je vis depuis tout le temps sur une petite commune de Vendée qui s'appelle Les Roux, c'est pas très loin de Luçon, c'est le sud Vendée. Je suis marié, j'ai 2 fils, Anthony et Aurélien. Alors, la commune de Les Roux, on est sur une commune où il y a à peu près 600 habitants, hein, donc c'est là où je suis né. J'ai toujours été à Les Roux. Il y a une école primaire, il n'y a pas beaucoup de commerce, hein, il y a un café, un restaurant. Sinon, c'est le boulanger du secteur d'à côté qui passe. Donc c'est une commune qui était plutôt agricole il y a quelques années, avec toutes les parties d'en bas où il y avait les animaux, où il y avait des fermes. Maintenant, c'est plus du tout agricole, quoi. Il va rester 4 fermes d'ici peu, alors qu'avant, il y en avait 25. Et avant, moi, je l'ai connu, donc je parle de ça il y a 35 ans, c'était que des agriculteurs du coin qui mettaient les vaches ici. Et on se retrouvait matin et soir à rentrer les vaches, chacun de notre côté. La ferme à Jean-Claude, la ferme à Christian, la ferme à Claude, la ferme à... Voilà, c'est ça. Avant, c'était ça. C'était encore resté des petites structures individuelles. On était des copains qui sortaient en boîte le samedi. Et en plus, on faisait le même métier la semaine. Après, on achetait du matériel en commun. Tous des fils d'agriculteurs. Maintenant, c'est terminé. La vie a fait qu'il n'y a plus d'éleveurs du tout dans ce secteur. Et maintenant, il y a beaucoup de résidences secondaires aussi. C'est vrai qu'en 30-40 ans, ça change. La vie change. Alors moi, je me suis lancé sur la production laitière. Mes parents, mes grands-parents faisaient de la production laitière. Alors mes parents travaillaient tous les deux à la ferme, donc maman travaillait aussi à la ferme, elle faisait la traite. Mon père faisait la ferme plus il était laitier, c'est-à-dire qu'il ramassait le lait dans les autres fermes. Alors ça, c'était quand j'avais 10 ans, ça. C'est-à-dire qu'il partait tous les matins à 7h30-8h avec son camion, faire la tournée pour ramasser tous les bidons de lait à ce moment-là. Donc il partait, il faisait toute la tournée des communes à côté pour rentrer après en milieu de matinée. C'était aussi du boulot parce que maman était toute seule à faire le travail, quoi. Donc là, oui, j'habitais à la ferme, je vivais à la ferme. Quand j'étais pas dans les cours le mercredi, j'aidais à la ferme. À 10-13 ans, même peut-être avant, on allait ramasser des choux dans les champs. J'ai l'impression d'être très vieux quand je dis ça. Mais on ramassait les choux, on les coupait, on les mettait dans la remorque. On ramenait ça, on mettait 8 choux par vache, je me rappelle. Et puis voilà, c'était le travail que je faisais le soir ou le mercredi ou le samedi, comme aller conduire la jument dans la vigne, enfin plein de choses. Ça me plaisait pas du tout. Mais papa était quelqu'un qui... Ben, il avait raison, hein, il m'a appris l'éducation, hein, c'est lui qui m'a appris. Je pense que je lui dois beaucoup de toute façon. Il n'était pas question de se lever le mercredi matin à 9h, hein. Il fallait se lever de bonne heure au petit jour. Pas question de ne pas travailler le dimanche, donc ça... Ça forge quand même, quand on a 12-13 ans, ce genre d'éducation. On parlait qu'agriculture, c'était ça. Les week-ends, c'était l'agriculture. Quand il y avait du monde à manger le dimanche, c'est rare qu'il y avait une autre conversation. Donc moi, j'étais pas comme ça. Donc j'étais pas un vrai agriculteur. Quand on me disait ce que je voulais faire, je voulais surtout pas être agriculteur. Et puis après, quand il a fallu choisir un lycée professionnel pour évoluer, je m'apercevais que j'étais bien chez moi. J'avais surtout pas envie de m'en aller à Nantes ou à Angers, loin des parents, loin de la ferme, loin de mon chien, si je veux aller plus loin, je peux parler de ça. Et puis je me suis dit, en fin de compte, je suis très bien avec la ferme, et puis on va essayer d'évoluer. Et puis, donc moi, c'était uniquement avec les parents au début. Après, par la suite, ma femme s'est installée. Après, mes parents ont arrêté, c'est mon frère qui s'est installé. Donc c'était plutôt en famille. Et c'est vrai qu'il était très content qu'on prenne la suite, ça c'est sûr. Alors ça, c'est le bon côté des choses. Le mauvais côté des choses, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai pris conscience que j'allais sûrement faire ce métier, je voulais le faire progresser. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a eu des conflits difficiles, forcément, entre père et fils. Maman se rappelle très bien des coups de gueule qu'il y avait entre nous. À un moment donné, j'ai imposé ma façon de faire. Mais ça s'est pas passé tout très facilement. Hein. C'est comme dans les animaux, hein, y a des dominants, et puis quand il y a deux dominants, ça se bagarre un peu. Je pense qu'il a compris, parce que petit à petit, on a fait des belles choses. Après, il n'y avait plus que ça qui comptait, quoi. J'ai pas pris goût au métier de la ferme, j'étais passionné. C'est pire. C'est-à-dire que quand je partais en vacances, c'est tout juste, il fallait pas que je rentre deux jours avant la fin des vacances. Ça me manquait, quoi. Je voyais une vache, je voyais plein de choses, moi, que personne ne peut comprendre. Chaque vache, je connaissais le père, la mère, le grand-père, la grand-mère. Je pouvais faire le nombre d'heures, je m'en foutais. On est pris par le boulot, on s'occupe pas trop des enfants à l'école. Incapable de faire des devoirs, j'avais pas le temps. Décision de partir dans telle ou telle école, c'était géré plutôt avec ma femme. C'est elle qui faisait les réunions avec les parents et professeurs. J'avais pas le temps. J'avoue que j'ai pas été un père exceptionnel. J'étais trop à fond dans mon boulot. Enfin, je regrette surtout pas ce que j'ai fait. Entre 20 et 45 ans, la vie elle est devant nous, on va dire. Donc on compte pas le temps, on travaille. Ça va vous faire rire, mais j'aimais que la paille soit propre. Je ne supportais pas qu'une vache couche sur une bouse. J'aimais que la salle de traite soit propre, j'aimais que le matériel soit propre. J'étais maniaque, donc je balayais la cour un dimanche matin devant l'entrée de la porte de la stabulation pour que s'il vient du monde le dimanche faire un tour, que la stabule soit propre. Devant les veaux, il fallait pas qu'il y ait un brin de paille. C'est vrai que le samedi ou le dimanche, on était fiers de faire visiter son entreprise, on va dire, parce que c'est quand même moi qui l'ai créé. Et bon, faire visiter quand tout est propre, quand tout est aligné, quand les vaches ont un beau poil lisse, bien brillant, c'est plus agréable que des vaches pleines de bouse et puis maigres et puis voilà. Ça m'est arrivé d'emmener des vaches sur des concours. Bon, sortir un peu du lot, bah, c'est une fierté, hein, voilà, c'est une fierté. Alors, on fait le bilan de sa vie. Mince, qu'est-ce que je vais faire après ? À part la routine de se lever le matin, traire 80 vaches, de se coucher le soir, de se lever la nuit, faire des vélages, mais c'est tout. Au mois de septembre, on fait l'ensilage, l'hiver, on fait les vélages, on sème le maïs au mois de mai, on fait le foin au mois de juin, on bat le blé au mois de août, et hop, on arrive au mois de septembre, on en fait les ensilages. Donc au bout de 4-5 ans comme ça, tu te dis, en fin de compte, oui, c'est une routine. Ça tourne en rond, et puis on partait 8 jours par an. C'était 8 jours par an et on trouvait ça formidable. Donc à un moment donné, on s'aperçoit que la vie, c'est autre chose. C'est facile de dire « je veux partir », mais après, faire quoi ? C'est surtout ça, quoi. C'est forcément, on a peur. C'est obligé d'avoir peur. C'est obligé d'avoir peur parce qu'on ne sait pas où on va. C'est-à-dire que, bon, avoir des passions, envie de faire quelque chose, c'est une chose, mais il faut quand même qu'il y ait un revenu derrière. C'est-à-dire que moi, si je pars, ma femme part aussi. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui partent. Alors, pas pour s'en aller dans une banque, hein, ou chirurgien dentiste. Alors, je suis allé voir pour passer mes permis poids lourds. Je suis allé voir une usine à béton qui est à côté de chez moi. Je suis allé voir le patron. Le patron me connaissait, sur mon sérieux. Alors là, je me fais des fleurs. Mais comme il m'a dit, si tu arrêtes la ferme, un jour, moi, je t'embauche. Je suis allé voir un maçon aussi qui fabriquait des maisons. Qui m'a dit, Jean-Claude, si tu arrêtes un jour, tu sais que tu seras le bienvenu. Donc, j'ai été embauché en sortie de la ferme. J'ai eu du boulot 3 jours après, quoi. Là, c'était super parce qu'on embauche le lundi à 8h et à 8h et on débauche le vendredi à midi. Ah, c'est formidable. C'est 2 jours et demi de week-end par semaine, c'est 5 semaines de congé dans l'année. C'est une belle vie en fin de compte. Quand on va voir quelqu'un le samedi soir, on peut se lever le dimanche matin à 11h parce qu'on s'est couché à 3h puis qu'on a bu un peu trop. Des fois, même le jeudi soir, on était débauché, quoi. Donc, vendredi, samedi, dimanche chez soi, mais c'est impensable, ça. C'est là qu'on se dit, waouh, c'est super. Puis après, ça se gâte. Après, ça se gâte parce que mon tempérament de ne pas avoir de patron revient vite au galop. C'est-à-dire que travailler sous le nom d'un patron, et là, je me suis dit, j'ai fait mauvaise route, quoi. Là, j'ai dit, 47 ans, je crois que tu t'es planté. Alors, j'allais pas retourner à la ferme, c'était hors de question. Et puis, pendant les fêtes, c'était les fêtes de Noël ou fêtes du jour de l'an, les repas en famille, je sais plus trop. J'ai une belle-sœur qui faisait de l'immobilier. Alors, c'est un truc, hein. L'immobilier, c'est un mec qui est en costard-cravate, qui frime, qui. Voilà, pour moi, c'est ça. Hein. Franchement, s'il avait fallu mettre un costard-cravate, je pense que j'aurais pas fait ce métier. C'est bête, hein, c'est bête, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que ce qui m'a fait choisir l'immobilier, c'était cette indépendance. C'est-à-dire qu'on organise son temps. Cette liberté, quel plaisir de retrouver ma liberté. Quel plaisir d'être son patron. Je me lève à l'heure que je veux, je fais le travail que je veux, et je m'organise comme je veux. Alors je vous dis franchement, maintenant que je sais que je fais beaucoup d'heures dans ce métier, mais ça ne me dérange pas, parce que la passion est là, et puis pour l'instant, ça, je suis à fond dedans, quoi. Un agriculteur qui fait de l'immobilier, ça s'est pas vu beaucoup. Mais c'est de la décision qui a été prise, et quand j'ai pris une décision, j'y vais, quoi. Peut-être baisser sans savoir si ça allait marcher ou pas. Je trace ma vie, point. Et en fin de compte, j'ai réussi à faire ma place dans ce métier petit à petit. Et maintenant, je fais partie, bon, on va dire, des 10 meilleurs vendeurs. Alors, ça y est, je vais encore parler de moi et de ma frime. Je suis désolé. Mais c'est vrai que quand ils recrutent des gens, ils parlent de moi maintenant. Vous savez, M. Faucon, il était agriculteur avant, il avait 80 vaches laitières. Et maintenant, ils vont couramment des maisons. Comme quoi, celui qui veut, il peut. On peut le dire, ouais, je suis fier de ce que je fais maintenant, ouais, c'est vrai. Et surtout, de rester libre de soi. Cette liberté, c'est la première chose que je cherche, la liberté.
Je m'appelle Louis Ganet, j'ai 36 ans, je suis originaire de Marseille. Et il y a 9 ans, je suis arrivé en Bretagne après un parcours d'études droit, philo. J'ai enseigné l'économie et m'a pris la folie de vouloir devenir paysan. Depuis le 1er janvier 2012, je suis agriculteur à mon compte. On est sur le site de la ferme de la Source, ma ferme. Morbihan, près de l'Orient. Bah, c'est en Bretagne. Hein. Je me suis installé ici par amour d'une femme en fait. J'ai rencontré celle qui a été ma femme ici. Et donc c'est pour ça que je suis resté là. Et en fait, on est en procédure de divorce aussi. Voilà. Après, j'ai grandi un peu dedans, parce que mes parents, on avait une maison de campagne en Auvergne. Moi, j'ai beaucoup fréquenté les petits paysans d'Auvergne. Et j'ai de bons souvenirs, d'ailleurs. Beaucoup d'images d'Épinal, d'ailleurs, aussi. Et c'est un peu avec ces images-là que je suis arrivé pour m'installer comme agriculteur. Et quand je me suis installé, j'avais vraiment le... Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Quand je me suis installé, j'arrivais dans le but d'apprendre justement auprès des gens. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup tendu les mains. J'ai demandé des explications, comment ça fonctionnait. Je me suis aperçu que les conseils, finalement, on m'en donnait assez peu. Bah, quand je m'installe, je suis dans un village, il y a 10 familles. Bah, c'est un patoche, quoi. Du coup, je suis allé proposer mon lait, je suis allé proposer ma viande de veau. J'ai dit, je peux vous livrer le lait avec le journal le matin, dans des bouteilles. Voilà, c'est un écart. C'était un peu le concept que j'ai mis en place au départ. Et c'est du bon lait cru, de vaches nourries naturellement. Il y a 10 familles dans le village. Il n'y en a qu'une qui me prend du lait cru. Les autres peuvent faire aller au supermarché, il est meilleur. C'est plus commode. Alors que je le vends moins cher qu'au supermarché. Bon, moi, j'ai laissé tomber. J'ai vu qu'ici... c'était mort. Et moi, je pensais que voilà, en m'installant, ça allait être quelque chose de solidaire, de sympa, familial. Dans les campagnes, c'est pas du tout ça. C'est la guerre dans les campagnes. C'est la guerre pour que. C'est un véritable panier de crabes. Au sens où on attend que l'autre crève pour pouvoir récupérer ses terres. Régulièrement, j'entends. Là, le Marseillais, il est venu voler la terre des Bretons. Il tiendra pas. Parce que les gens pensaient que j'allais tenir un an et demi, et puis après, voilà, j'allais rentrer chez moi. Et en fait, j'ai poursuivi. Donc, je me suis pas agrandi, j'ai repris la ferme telle qu'elle était, j'ai gardé les 70 hectares, je me suis pas agrandi non plus en production laitière, enfin rien du tout, quoi. J'ai gardé le système tel qu'il était. Si ce n'est qu'après, j'ai voulu lui donner une touche un peu différente, donc j'ai voulu l'orienter davantage vers une production bio. Assez rapidement aussi, j'ai introduit donc, les Brunes des Alpes, qui sont quand même de très belles vaches, et je me souviens, les gens s'arrêtaient sur la route départementale pour les photographier. Donc ça s'est vu, ça se savait. Les portes se ferment. Donc c'est très très difficile à vivre. J'étais dans une réunion, j'ai fait partie d'un syndicat agricole, j'étais dans une réunion syndicale, et puis bon, à la fin tout le monde s'en va, ça disperse, et puis mais ça vous dit, on habite tous dans un rayon de 10 km², quoi, donc tant qu'à faire, on se fait une petite bouffe à la maison, un petit barbecue sympa, avec vos femmes, vos enfants, tranquille, décontracte, comme ça on fait un peu connaissance. Quoi. Oh, et puis ils trouvent jamais le temps de venir. Mais en fait, les gens ne veulent pas venir chez moi parce qu'ils ne veulent pas me rendre l'invitation. Vous n'êtes pas accueilli, vous sentez un étranger. Moi, il faut savoir que ça fait quand même... ça fait 9 ans que je suis en Bretagne. Quand je suis arrivé ici, j'ai tout fait pour m'insérer dans la société, dans la culture bretonne. J'ai appris la langue bretonne. J'ai appris la musique bretonne aussi. Donc, je fais partie de ce qui s'appelle un bagad, hein, des formations musicales bretonnes. J'ai appris la langue. J'ai vraiment tout fait.
Non.
Vous connaissez beaucoup de Marseillais, vous, ici, en Bretagne, qui connaissent le breton ? Quand vous croisez vraiment personne, bon, voilà, aujourd'hui, vous venez, il y a du soleil, mais imaginez les journées sombres. Et ça dure 5 mois, l'hiver, à peu près. c'est quand même très long. Il fait jour à partir de 9h, mais encore, le temps ne se lève pas trop, donc c'est pas un grand jour. Et à 16h30, 17h, il fait nuit. Bon, la plage de lumière dans la journée est courte. Dès que vous travaillez avec un tracteur, il faut des phares, ainsi de suite. Parce que ce sont des journées sombres, du brouillard. Bon. Puis personne, vous ne croisez personne. Je pensais pas que j'allais me retrouver aussi seul. Mais la solitude au milieu de gens à lesquels les relations sont compliquées, c'est la torture, parce que vous entendez des réflexions. Vous les croisez en voiture, ce sont des gens qui, vous leur adressez un bonjour, ce sont des gens qui ne vous répondent pas. Et ainsi de suite, c'est le quotidien, quoi. Voire même, il y a des journées complètes où vous croisez personne. Moi, ça m'est arrivé des soirées d'hiver, ciel bas breton, donc voilà, froid, humide. Où le soir, j'allais dans une grande surface pour savoir s'il y avait du monde sur Terre encore. Et en fait, quand vous vivez ça 3-4 jours d'affilée, ouais, je me souviens parfois le vendredi soir, j'avais tellement de travail ici, tellement pris, je croisais personne. On n'est rien pour ces gens-là.
Une voiture passe.
Oh, une onde. Je pense que le voisinage n'est pas très commode. J'ai eu des rapports assez difficiles avec des agriculteurs. J'ai eu, durant un mois, la main gauche dans le plâtre. Je m'en souviendrai toujours d'avoir connu un vélage qui se passait difficilement, donc obligé d'intervenir pour sortir le veau de la mer et d'enrouler mes cordes autour des coudes parce que le voisin ne voulait pas venir m'aider, quoi. Donc, puis c'était l'hiver, c'était au mois de décembre, il faisait froid. C'était la nuit, évidemment, 22h, 23h. Donc, il y a encore un mois, j'ai découvert que le dimanche après-midi, je pars me promener. Et lorsque je suis revenu tramer vache le lundi matin, j'ai découvert que quelqu'un avait mis du liquide vaisselle en fait, dans les fourrages d'eau. Donc, cherchait à empoisonner le troupeau de vaches, quoi. Et ça finit, ça aurait pu mal finir, puisque j'ai jamais trop compris pourquoi. J'ai perdu 30 vaches de crise cardiaque foudroyante. Elles tombaient comme des mouches. Ça a duré un an. Vous voyez tous vos animaux qui meurent. La première qui est morte, elle est morte juste derrière nous, là, ici, au milieu, là. Elle est tombée comme ça. Alors vous en perdez une, deux comme ça, trois, bon, dans les élevages parfois ça arrive, et bon, sauf que là quand vous en perdez 30, et puis vous perdez encore des plus jeunes, hein, des petits veaux, des machins comme ça, tout le temps, ça fait beaucoup, quoi. Et moi de perdre 30 vaches, ça m'a fait perdre 60 000 euros de chiffre d'affaires, parce que du coup c'est moins de lait. Donc, vous n'arrivez plus à rembourser les fournisseurs, les prêts bancaires aussi, tout ça. C'est un mardi à 16h. Et voilà, coup de téléphone de la banque m'annonçant que ça commençait à devenir compliqué. Et donc, l'annonce, il va peut-être falloir penser à vous liquider. Ce gagné, ça va plus, il va falloir penser à vous liquider. Puis après, je traîne mes vaches. Mais c'est pas possible que j'ai fait toute cette route pour ça, quoi. Pour en arriver là. D'avoir tout sacrifié aussi. D'avoir mis mes parents, ma famille à 1500 km. D'avoir arrêté la musique. D'avoir sacrifié beaucoup, beaucoup de choses. De m'être battu dans la solitude. La solitude extrême. C'est pas possible. C'est pas possible que la vie me mène comme ça. Et j'ai traîné mes vaches. Donc voilà, toujours est-il que deux jours après, en fait, ici dans le bâtiment, là, je me suis mis au bout d'une corde. Voilà. Et ça s'est pas fait, je sais pas pourquoi, je m'en souviens plus. Et voilà, mais j'ai la chance d'être en vie aujourd'hui. Ils m'ont pas eu. Ils m'auront jamais. Thank you. aujourd'hui, pour moi, concrètement, la page se tourne complètement. Je perds la ferme, ma maison, puisque je suis en faillite personnelle, et mon couple. Donc voilà, ça roule. En attendant, j'ai trouvé un boulot alimentaire. Donc, je vais faire du nettoyage industriel dans les abattoirs. Ouais, c'est bien, c'est chouette. Ça me dépanne bien. Vous vous rendez compte que je vais gagner en... Je vais gagner en une semaine ce que je mets un mois à gagner en tant qu'agriculteur. 300 euros, quoi. Écoute, oh, t'es gentil, mais t'es gentil. Attends. Mais c'est dommage. C'est dommage, cette aventure... Hein. Alors, c'est pas dommage qu'elle s'arrête, cette aventure. Je suis content qu'elle s'arrête. Je suis soulagé. Sans regret aujourd'hui. Vraiment sans regret que je m'en vais. Ouais. Ouais. Sans regret.
I'm standing in a field of questions. As far as the eye can see, is this what it means to be free? Or is this what it means to belong to the free?
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Vers la Terre, un reportage de Valérie Borst, réalisé par Angélique Thibault. Merci à Jean-Claude Faucon et à sa femme Nicole, à Louis Ganet, à Taos Laïb Burchard et à Alexandre Dang. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Valérie Borst la remplace de temps en temps. Vos commentaires, c'est sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter. On vous y attend nombreux pour commenter ou partager nos émissions. Vous pouvez également vous abonner à notre podcast, le podcast des Pieds sur Terre. Vous pouvez aussi désormais vous abonner au podcast des Années Boom, 7 épisodes d'un coup de notre nouvelle série disponible sur iTunes, Mes Années Boom, ou bien en googlant Mes Années Boom et vous irez directement sur notre page. Na 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 na.